Allez.
Donc cette semaine, c'est le speed de Noir. Alors, bien sûr, on aurait pu continuer sur les événements, sur la tristesse, etc. Mais bon, il faut quand même essayer de prendre de l'avant. Donc on va faire un speed traditionnel, d'accord ?
Elle est belle.
Mais malgré tout, c'est un speed fondamental. Dans la mesure où il va ouvrir des horizons de réflexion. Je m'explique. D'abord, ça a été écrit par Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch. Alors, on a tous entendu parler de ce rabbe-là. C'est un rabbe qui habitait en Allemagne au 19e. Et il est très célèbre pour plusieurs raisons. D'abord parce que il a écrit beaucoup de ses œuvres en allemand. Donc, il faut le faire. En général, c'est très rare que des commentaires traditionnels soient écrits dans une autre langue que l'hébreu. Et donc, lui, il a écrit en allemand. Deuxièmement, c'était un allemand académique. Donc, l'allemand lui-même, c'est un allemand très complexe. C'est un allemand recherché de la langue allemande. C'est une langue aussi qui a beaucoup de finesse. Et là, c'est un allemand académique. Et par rapport à ce rave-là, c'est un rave orthodoxe, d'accord, qui s'est opposé au mouvement de réforme en Allemagne, qui était très fort à son époque. Et donc, il a beaucoup écrit pour montrer l'aspect intellectuel, pour montrer qu'il y avait des choses profondes dans l'enseignement de la Torah et pour s'opposer au courant de la réforme allemande. Il a fondé des écoles juives, et la dernière chose aussi, qui n'est pas des moindres, c'est que ça a été aussi un des premiers à vouloir associer l'orthodoxie traditionnelle avec le travail. Il appelait ça Torah im derech eretz, Torah et travail, et donc il a beaucoup lutté pour ça, pour cette idée-là qu'on pouvait être en même temps orthodoxe, en même temps versé dans l'étude, et en même temps plongé dans le monde du travail. Donc ça, c'est une des particularités de Rav Shimshon Raphaël Hirsch. On l'appelle, vous avez Racha. Vous ne pas vous étonner, hein. C'est marqué Racha Hirsch, Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, ouais. D'accord ?
Non, c'est pas Racha.
Alors, de quoi on va parler ? Le titre du speed, ça s'appelle « La lèvre et la langue ». Qu'est-ce que ça veut dire la lèvre et la langue? Vous savez qu'au tout le début de la paracha de Noir, c'est l'histoire de Noir, du déluge, etc., l'arc-en-ciel. Puis la deuxième partie de la paracha, c'est l'histoire de la tour de Babel. D'accord? En introduction à la tour de Babel, la Torah nous décrit tous les descendants de Noir, puisque c'est le début de l'humanité, c'est un nouveau début de l'humanité. Tout le monde a été détruit sauf Noir et sa famille. Et donc Noir, elle avait trois enfants, Shem, Ham et Yafet, qui va donner trois grandes voies dans l'humanité. Donc Shem, c'est les Sémites. Ham, en général, on dit que c'est le Noir, c'est l'Afrique. Et Yafet, c'est l'Europe. Donc Sémites, c'est tout le Moyen-Orient, l'Europe et l'Afrique. C'est ça qui va, on va dire, habiter le monde. Et la Torah, elle décrit chacun des enfants en disant, voilà le nombre de descendants qu'il a eu, voilà ce qu'il a fait, voilà les pays où il a été. Et pour chacun des enfants, le texte se termine par ceci. Et bon, moi, je vous ai donné le dernier, je ne vous ai pas mis les trois, mais c'est reporté pareil pour Ham et pour Yafet. Et les Béné Shem, voici les enfants de Shem, les Mishpechotam selon leur famille, l'île Shonotam selon leur langue, puisqu'ils ont formé des peuples, Be'artsotam dans leur pays, les Goyehem suivant leur nation. Bon, donc il y a une différenciation, mais ce qui nous intéresse, c'est les Mishpechotam selon leur famille, les Lushonotam selon leur langue. D'accord ?
Il faut même la langue. Il n'y a pas eu le...
On est avant, là.
Avant le Maboul.
On est avant le... Non, tu mélanges. Le Maboul, c'est le déluge. Tout a été détruit.
D'accord.
La tour de Babel avec la langue, c'est après, 400 années plus tard. D'accord ? Donc, avant la tour de Babel, la Torah nous dit, voici les enfants de Shem, voici les enfants de Ham, voici les enfants de Yafet, qui se sont dispersés, l'île Shonotam selon leur langue. Et après, la Torah nous dit, Vayi kolaret safa achat, et toute la terre n'était qu'une langue, ou dvarim achadim, et des paroles uniques. C'est-à-dire, les gens étaient unis autour d'une même langue, et autour de paroles uniques, d'un discours unique, d'une vision unique du monde. Dvarim Achadim, on va traduire, on va dire pourquoi, une vision unifiée du monde. Et vous vous rendez bien compte qu'il y a une contradiction. On vient de voir, dans les versets d'avant, que Shem et Ham et Yafet, ils se sont dispersés dans différents pays, l'île Shonotam selon leur langue. Et après, tu me dis, la terre était Safa Achat. Safa, c'est un synonyme, une seule langue. Donc il y avait une seule langue, il y avait plusieurs langues. C'était ça d'ailleurs le prolongement de la tour de Babel. Hachem il a dit on va mélanger leurs langues. Vous rappelez, ils voulaient construire une tour pour monter jusqu'au ciel et combattre Dieu, enfin, ou bon, plusieurs explications. Et Hachem il a dit le moyen de les disperser, c'est de mélanger leurs langues. Et Hachem a mélangé les langues. C'est-à-dire avant la tour de Babel, il n'y avait qu'une seule langue. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Vaï kol aretz afarachat varibachani. Mais vous avez bien fait attention qu'au début c'est marqué l'ilushon notam, le lachon. Et après, on parle de Safa. Alors, le grand chidouche qui dit Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, on va le lire tout de suite, c'est que, et on n'y a jamais fait attention, la langue, une langue, ben, c'est lachon. Comme la langue, la lame de veau, la lame de bœuf, c'est le même mot, lachon.
Oui.
D'abord, qui désigne la langue, mais c'est normal, parce que c'est elle, c'est, on va dire, la langue, c'est une partie des organes de la phonation. C'est pas seulement, il y a les lèvres, etc. De la parole, il y a la langue. Mais disons que pour désigner une expression, d'accord, d'un pays, on appelle lachon. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est que le mot safa, en hébreu, on dit safa à ivrit, la langue hébraïque. Ok ? Safa, ça veut dire les lèvres. Safa, c'est fataïm, machem, c'est fataïm tiftar. Donc finalement, pour désigner. Voilà. Donc pour désigner deux synonymes du mot un langage, une langue, d'accord ? C'est deux termes, un qui désigne les lèvres extérieures, les lèvres, safa, et l'autre qui désigne la chaune, d'accord ? Et donc, sur cette voie-là, Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch s'engage pour montrer qu'avant la tour de Babel, il y avait des léchonotes, mais il y avait une seule safa. Ah, maintenant, il faut distinguer qu'est-ce qu'on appelle la chaune et qu'est-ce qu'on appelle safa. Vous voyez la piste ? Donc en fait, c'est une piste qui se base sur une analyse linguistique, mais qui va nous amener très loin. Ça suit là ? On y va. Safa Achat. Donc il avait déjà parlé sur le Shantam, mais sur Safa Achat, il reprend. Kefi Shekvar Rainu, comme nous avons déjà vu, Sibot Tivriot, il y a des causes naturelles, et Viu Anashim, qui ont amené les humains, Lit patzel à se séparer, les kvutsot nifradot dans des groupes distincts. C'est quoi les causes naturelles? Eh bien, c'est quand il y avait trop de monde dans un territoire, eh bien, les gens, ils allaient explorer un autre territoire, et puis c'est comme ça que le monde s'est peuplé. D'accord? C'est des causes naturelles, qui ne sont pas des causes de discorde. On peut se séparer simplement parce qu'il y a besoin de prendre de la place. Au ketotsa à Amikar, et la conséquence de ça, Emkanou le Hatzmam, ils ont acquis pour eux les shonot, des langues différentes. Il dit pourquoi, comme il a dit avant, il a dit, on va le revoir après, c'est que la langue, enfin ce qu'on appelle lachon en tout cas, on va distinguer le mot lachon, la langue, elle est liée au territoire dans lequel on va, au climat. C'est-à-dire qu'il y a une influence du climat et du territoire sur le dialecte, la langue. Ah, les shonot et lou, ces langues-là, loayu mamash safot zarot, ce n'étaient pas des langues étrangères, shonot différentes. Il dit que yachas ever à la shon, ever à safa, comme le lien qui relie le membre du corps humain, la shon, la langue, les ever au membre safa, berama agufanit, dans le niveau corporel, car, vous voyez déjà, c'est un discours, donc une des choses qui est très importante, c'est qu'il fait souvent des phrases très très longues. Et donc, c'est même au départ, ça a été écrit en allemand, je vous ai dit, ça a été traduit en hébreu, même en hébreu, c'est très difficile à comprendre. Donc, ils ont fait une traduction en français, qui est une traduction très très intelligente, très bien, et il faut aussi beaucoup de temps pour relire les phrases pour comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Donc, il dit, le même lien qui unit la langue et les lèvres, berama gufanit, au niveau corporel, troisième ligne, kar kayam yachas domé, il existe un lien identique, ben amusag lachon, entre le concept, musag c'est un concept de langue, le musag safa et le concept de safa, berama amufchetet, dans un niveau, vous avez mufchat, c'est-à-dire déshabillé, c'est-à-dire abstractif, au niveau abstrait, d'accord ? Ce qu'on appelle le lachon et la safa, c'est vrai que dans le langage courant, on ne fait pas attention, on dit quelle langue tu parles. Mais quelle langue? Je parle l'anglais, je ne parle pas une langue, ma langue elle est dans ma bouche. D'accord? Donc il y a l'aspect abstrait du mot langue, la même chose, l'aspect abstrait du mot lèvre. Et c'est la même relation qu'il y a entre les lèvres et la langue, c'est la même relation qu'il y a entre les termes abstraits de safa et de ça. Alors, en réalité, on va le voir plus loin, pour faciliter les choses, on va tout de suite différencier les mots. Lachon, c'est vrai qu'on traduit par une langue, mais lui propose de traduire ça par dialecte. Alors que safa, on va le réserver pour le mot la langue. Je m'explique. Un dialecte, en général, c'est la même langue, simplement modifiée par le territoire. Vous avez le dialecte des gens du Dauphiné, vous avez le dialecte des gens du Nord, vous avez le dialecte des Corses, etc.
Le patois, c'est le patois.
Voilà. Alors, ou dialecte ou patois, lui, il préfère le mot dialecte, mais c'est vrai que ça pourrait être traduit par patois. Mais, en tout cas, il veut dire que il y a une langue commune qui va se décliner en différents dialectes. Et donc, effectivement, ce qu'on a vu dans le verset 1, que Shem, Ham et Yafet se sont séparés l'île Sholotam dans leur langue, c'est pas dans leur langue, dans leur dialecte. Il y avait la langue originelle, et Rachid dit dans le Chumash, c'était Lachon HaKodesh, la langue avec laquelle Hachem a créé le monde. Et cette Lachon HaKodesh s'est tout doucement modifié pour donner des dialectes en fonction des pays. Mais ça restait du Lachon HaKodesh. En fait, ce qu'on retrouve un peu quand vous faites un peu de linguistique, vous voyez l'origine sémite, les langues sémitiques. Les langues sémitiques, alors bon, tout le monde n'est pas d'accord de dire que ça vient de l'hébreu, dans les linguistes.
Shem.
Mais voilà. Mais pour nous, toutes les langues sont dérivées, que le lachon ivri, c'est Shoresh, c'est la source de toutes les langues, qui ont évolué avant la tour de Babel dans des dialectes. Donc le lachon, c'est dialecte. Et safa, c'est un terme plus générique, c'est la langue hébraïque. Donc il y a une langue, non c'est tout l'hébreu, il y a une langue et plusieurs dialectes. Voilà pourquoi vous avez l'île Jolontam, safa, achat. Je continue. Mouvna, alors regarde maintenant, il faut expliquer le lien entre le concret et l'abstrait. La langue et la lèvre, et la langue et le dialecte. Ok? Quatrième ligne. Mouvna aïkari shel safa. Le sens essentiel du mot lèvre, ou katseu shel davar. Dans son sens physique, comme dans son sens emprunté, le mot safa, ça désigne l'extrémité d'une chose. D'accord? C'est pas comme le mot sof, mais, parce qu'il y a un samer, l'autre c'est un sin, mais ce sont des mots qui ont la même, ils sont homophoniques. Ah, mais il dit, le mot fin, lokatse melachuti, c'est pas une fin construite chez Notzar à l'idée qui toi, qui a été créée par une coupure. On dit, hop, on coupe là, c'est la fin du film, c'est la fin du si, c'est la fin de. Et la sofo vesiumo ativi. Le mot safa désigne simplement la fin et l'extrémité naturelle. C'est-à-dire, le mot safa, c'est l'extrémité. D'accord? Vous avez la safa d'une table, le bord, c'est le bord, l'extrémité. Alors que, et donc, vous voyez ici, et donc, on retrouve, c'est pour ça que je trouvais très intéressant ce speech, parce que il reprend les conseils d'habitude de Rav Shimshon Raphaël Hirsch, où il décline des mots en hébreu. Vous avez ici le mot safa, qui est décliné, c'est le même phonétique, mais pas le même sens. Et le mot sof. Le mot sof, c'est la fin, la coupure, la rupture. Ouais. Sof, c'est fini. Alors que safa, c'est l'extrémité comme elle a été déterminée. D'accord? Où on trouve ça? Dans sfatayam, le bord de la mer. C'est l'extrémité, c'est pas une fin. Daïnou, c'est-à-dire, agvoul, chez Oussamlo Meroche, la limite qui lui a été placée dès le début. C'est ça le mot safa. Les firar, c'est pour cela la parenthèse, orat safa bederer klal, c'est pour ça que le mot safa en général, les avis d'avoir les siumo ativi, c'est amener une chose à sa fin normale. Ou bien, ça veut dire la zone ou le chalker, c'est nourrir, les sapek tsorke micheo, de fournir les besoins de chacun pour arriver à l'extrémité, à combler sa faim. Car mispo, c'est la même racine dans mispo, machal, bema, etc. Ah, imken, si c'est ainsi, safa berama agufanit, le mot lèvre, dans son sens corporel, pirusha, akatsé achitsoni, shel halal apenimi, c'est l'extrémité de l'espace intérieur, les lèvres. Pourquoi on appelle ça les lèvres? Parce que c'est ça qui ferme tout l'espace intérieur. D'accord? Bon, il y a les oreilles et les yeux, mais l'endroit qui relie l'extérieur et l'intérieur, c'est la bouche, et la lèvre, c'est la clôture entre le monde intérieur et le monde extérieur. Voilà pourquoi on appelle ça Safa. D'accord? Safa, c'est l'extrémité. Donc, l'extrémité de notre montre intérieure, c'est le Safa. Isogeret, la lèvre ferme, Umsa Yemet est définie, termine, et Tralala Gouf, l'espace intérieur du corps. Ok? Donc, chaque phrase, vous voyez, on peut réfléchir 2 heures sur chaque phrase, donc on avance, mais. Veine, Asafa, Metsayeget, et Kolachala la paix. La lèvre définit tout l'intérieur de la bouche. Vilwa lachon, tandis que la langue, Irak et Verecha, tu es au deuxième paragraphe.
Oui.
La langue n'est qu'un membre dans l'intérieur du corps. D'accord? Donc elle a une fonction à l'intérieur, mais elle n'a pas une fonction de clôture, de définition d'un espace. Marchir les Yitzirat Kolot. La langue, elle prépare la création de la voix. Ou Beoto Aofan, de la même manière. Gam Berama Amufchetet, même au niveau abstrait. Les Shonot M Nibim Shonim. Ce qu'on a appelé des Leshonot, ce sont des expressions différentes, dialectimes, des dialectes, vous voyez, shel safa achat, d'une même langue. Donc voilà pourquoi le mot lachon, la langue, elle, c'est elle qui va, et donc, bon, dans un autre endroit, il dit le mot lachon, la racine du mot lachon, c'est louche, pétrir. La langue, elle pétrit, elle malaxe les sons pour en faire sortir quelque chose d'intelligible, alors que le safa limite. D'accord? Et donc, c'est comme si, je vais vous dire, le mot safa, au niveau abstrait, il donne les limites de la langue originelle. Les lèvres, les extrémités de la langue originelle. Et à l'intérieur de ça, vous avez des variations de prononciation qui sont liées à la langue et qui sont les dialectes. Donc de la même manière que la langue, elle est capable de modifier les sons, de modifier les choses, d'accord? Ce qui est l'expression du dialecte. De la même manière, Safa, la lèvre, elle donne une limite aux choses, qui sont les limites de la langue originelle, qui est le Lashon HaKodesh. Voilà pourquoi on trouve que avant le Maboul, il y avait des Leshonotam, leur langue, leur dialecte, il faut mieux traduire. Mais par contre, il y avait Safa Achat, une seule langue originelle. Et donc, on pourrait imaginer que les gens qui étaient en Italie parlaient un hébreu modifié, et les Syriens, et les Babyloniens, et les Jordaniens, ils parlaient des langues, d'accord, des dialectes dérivés de l'hébreu, où il y avait juste la langue qui avait des modifications, d'accord. Il y avait peut-être des comme dans les patois, dans les dialectes, on retrouve la même chose, avec juste une modification des mots. Mais globalement, et c'est ça qui va être important, le sens des mots est le même. C'est très important, cette deuxième partie.
David, on peut imaginer qu'ils pratiquent le dialecte, mais ils ne comprennent pas l'original.
C'est possible. Les gens,
oui,
exactement.
Ils pratiquent beaucoup le dialecte.
Exactement. Que les gens, à force d'utiliser le dialecte, ils ont oublié la langue originale. On est d'accord.
Voilà.
D'accord. Un peu comme on parle souvent, qu'en hébreu, péri, c'est un fruit. Péri. Et en français, c'est le fruit. Qui est la déformation du mot péri. Péri, féri, fruit. D'accord? Fruit en anglais. Frucht en allemand. Donc on voit que ce sont des mots qui ont évolué. Et l'allemand, Heil und Weil, ils ont fait de péri, de féri, frucht. D'accord? C'est tout de suite le. Alors lui, il dit que c'est le climat, l'endroit qui fait évoluer le comportement des gens et le dialecte des gens. D'accord? On avance un tout petit peu. Bal Mishka, troisième ligne du deuxième paragraphe, n'oublions pas, chez Karov l'Arba Meotchana, que près de 400 années, Khalfou ont passé, Midor Amaboul, Vador Apalaga, entre la génération du déluge et la génération de la rupture, qui est la génération de la tour de Babel. L'Orer Tkoufazou, tout au long de cette période-là, Nifredou, Veid Parzrou, se sont séparés et dispersés, Bene Adam, Beofan Tivi, de façon naturelle, par la pression de la population. Et en conséquence, Itpatruarbe Leshonot, se sont développés beaucoup de Leshonot dialectim, de Afalpiken, et malgré tout, Adain Aita Safa Achat. Donc voilà pourquoi ça nous explique la différence entre les deux versets. Et les Beneshen Mishpokotam ont l'Ilshonotam, des dialectes différents, mais malgré tout, vous voyez qu'on arrête Safa Achat. Une seule lèvre, c'est-à-dire une seule langue commune, déclinée. La deuxième chose importante, c'est Dvarim Achadim. Et c'est ça qui va être très important, ensuite, pour comprendre la suite. C'est quoi Dvarim Achadim? Le mot d'avar, c'est un mot neutre, ça veut dire une parole, ou même, c'est-à-dire une chose. D'accord? Donc, une seule langue, ou Dvarim Achadim, est des choses uniques. Qu'est-ce que ça veut dire, des choses uniques? Alors, on va le traduire maintenant pour ne pas... Et nos chavés les safarachat. Ça ne veut, c'est pas du tout comme une langue. Safarachat, une langue, pirusho, achidut, beege, asafa. C'est une unité, beigui, asafa, dans la prononciation de la langue. Atluya, beachibut, beachidut, amivneshela. Qui est lié à l'unité de la compréhension de cette langue. Vilud, vari, machadim. Tandis que des paroles uniques ou des choses uniques, pirusho, Achidut bemilim ou mishpatim, c'est une unité dans les mots et les phrases, anovaat qui dérive, migisha meshutefet el advarim, vous soulignez, d'une approche commune aux choses, ou liachase agomlin benehem, et des relations, des interrelations entre elles. Je m'explique. Que le mot dvarim, c'est plus l'idée de concept. Ça veut dire que si maintenant, et en fait, bon, c'est une introduction, parce qu'il y a une deuxième partie, mais qui est très très longue, il développe ça sur de nombreuses pages de Rav Shimshon Averir. On va juste commencer. Mais chaque mot, il désigne un concept. Et initialement, le concept était le même dans toutes les langues et dans tous les dialectes. Je m'explique. Un fruit, d'accord? Tout le monde est d'accord de ce que c'est qu'un fruit. D'accord? Par contre, la notion de peuple, d'accord? Un peuple, ben en fonction des pays, en fonction des civilisations, ça a changé la notion de peuple, la notion de dirigeant. Et même les mots ont changé. Et donc il y a beaucoup de choses, la notion de liberté, la notion de religion, la notion de divin. Donc toutes ces choses-là, c'est des concepts. Eh bien au départ, tous les concepts, dans tous les dialectes, avaient le même sens. C'est-à-dire que quand on parlait d'un ami, d'accord ? Ça, qu'on parlait de Dieu, qu'on parlait de religion, qu'on parlait des cieux, qu'on parlait de concepts physiques, d'accord, comme de concepts plus abstraits, dans tous les dialectes, les choses avaient un sens unique. Et c'est ça qu'exprime Safa Achat ou Dvarim Achadim. Des concepts uniques. Une langue unique et des concepts uniques. Avant la tour de Babel. Ok? Kvar Tzianou, nous avons déjà remarquez, est à Kirva. Vous êtes bon?
Oui.
Je suis dans la deuxième partie de Dvarim Achadim, la deuxième colonne, enfin deuxième paragraphe. Le lien chez Ben Davar, Tafar, Dor, Tour, Vetour. Et donc ça c'est la grande force de Rav Shimshon Aval Hirsch, où il fait des colliers de mots, d'accord? Avec des petites variations. Par exemple, le mot Davar, qui veut dire une chose, un concept, c'est la même. Ça ressemble en tout cas au mot tafar, qui veut dire coudre, puisque les concepts vont s'enchaîner. Dor, qui veut dire une génération, où on a un enchaînement de choses. Tour, qui est une... Michel, c'est bon? Tour, qui est une rangée. Shekulam morim al tsirub shel dvarim dumim, que tout ça désigne l'association de choses semblables. Orazu, boletet, bon, là je vais un peu vite, cet enseignement... Et encore plus criant, Benchil shel Deborim, un essaim d'abeilles. Dans le mot abeille, vous avez le mot davar. Bekorot shel Dobra, dans un radeau, Ravsuda, etc., etc. Beder Amkuna shel Dober, etc. Mais, paragraphe suivant, donc là c'est déjà, il faudrait étudier chaque chose pour voir le lien qu'il fait et la correspondance entre tous ces mots qui ont une même phonétique. Pour lui, et c'est pas du tout grammatical. En grammaire, Il faut qu'il y ait la même racine. Et même en hébreu, on recherche la racine et on voit si les mots ont la même racine. Pour lui, non, non. Si le son est le même entre deux mots, c'est forcément qu'ils ont un lien. Ça, en fait, c'est pas lui qui a inventé. Le Midrash fait pareil. Mais il faut avoir beaucoup d'imagination. D'accord ? Il faut avoir une... Non, c'est pas de l'autisme, non, non. Il faut avoir de l'imagination auditive. D'accord ? Mibrinat Torah Taïgoui, sur le plan de la prononciation, Mila Meagedet Yardav Kamakolot, un mot réunit des sons. Kebitu il raïon, et c'est l'expression d'une idée. Imeshalevet Simanim Shonim le Moussa Gechad. Elle réunit un mot, tout mot. Il réunit des détails en un concept. D'accord ? C'est-à-dire que, quoi que tu dises, et normalement, le mot, il traduit le concept. En réalité, nous, ça fait longtemps, et dans toutes les langues, qu'on a perdu le lien entre la racine du mot, la structure du mot, et l'expression du concept. Pour nous, en hébreu, même en hébreu, un péri s'appelle péri. Une pomme, c'est un péri, je veux dire, ça aurait pu s'appeler Hamor, hein, une pomme. C'est pas parce que ça s'appelle péri. C'est-à-dire que, mais en réalité, c'est faux. Le mot péri, il s'appelle péri parce que c'est lui qui exprime la réalité, le concept du fruit. Péri. D'accord ? Bon, c'est vrai qu'il y a la racine de Pérou qui veut dire croître, etc. Ilan, c'est un arbre. Vous pouvez aller jusqu'à demain, chercher jusqu'à demain pourquoi Ilan s'appelle Ilan. Mais là, on voit ça dans Bereshit. Quand Hachem, il a amené Adam Arishan tous les animaux, il lui a fait passer tous les animaux devant, d'accord ? Et Adam Arishan, il avait une vue profonde des choses, et Hachem, il a dit, tu vas leur donner toi le nom. Donc Adam Arishan, il avait un chamor, il a dit, ça c'est un chamor. Il avait une para, il a dit, ça c'est une para. Il avait un oiseau, il a dit, ça c'est tsipor. Ça veut dire que le mot tsipor, il exprime ou dans son son, ou dans sa structure, ou dans la structure des lettres, ou dans la structure du mot lui-même, ce que signifie un tsipor. D'accord ? Quand on dit un oiseau, maintenant un oiseau, et en hébreu, c'est ça. Un oiseau en français, tu t'appelles oiseau, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle oiseau. D'accord ? Par exemple, la religion. Si je vous dis la religion, quelle est la racine du mot religion ? C'est religere, c'est du latin attaché. C'est quelque chose qui attache les hommes. C'est qui relie aussi, mais qui les attache. D'accord ? Il y a une idée comme ça de servitude dans l'idée de religion. D'accord ? Donc le concept religion, et donc il fait cette étude-là à partir des mots allemands, ça a été traduit, il montre comment le concept va varier. Et il dit, au ketochen shel mishpat o dibou, et comme une phrase ou une parole, une phrase entière, mishalevet irayonot shnonim le yichida achat. Le mot comme la phrase va relier plusieurs concepts en une seule suite. D'accord ? Mais en réalité, nous, ça fait longtemps qu'on utilise les mots sans savoir quel est le concept qui est exprimé dedans. Pour nous, les mots désignent des choses. Mais on est loin de comprendre le contexte. Kolele kolim bedavar. Et tout ça, c'est inclus dans le mot davar. Davar, c'est dibour, c'est parole. Et on va, pour le comprendre bien, c'est concept. Donc en réalité, si vous traduisez la première phrase, avant la tour de Babel, Vaï kolaret safa achat ou dvarim achadim. Il y avait une langue, l'hébreu, ou dvarim achadim, et un des concepts, il y en a plusieurs, des concepts uniques. C'est-à-dire que, quels que soient les dialectes, les gens avaient une vision du monde exprimée par la langue hébraïque développée dans différents dialectes, mais chaque dialecte, il avait le même regard sur les choses, c'est-à-dire un ilan. Alors maintenant, c'est très abstrait pour nous, parce qu'on a totalement perdu le lien entre l'objet et le concept que représente le mot, d'accord ? Et pour nous, ça ne fait aucune différence, comme on a dit tout à l'heure. Mais avant la tour de Babel, et c'est ça la rupture avec la tour de Babel, c'est qu'avant la tour de Babel, les gens y parlaient presque des langues différentes, puisque c'était des dialectes différents. Mais ces dialectes qui étaient tous dérivés de l'hébreu, ils avaient le même regard sur le monde. Voilà, c'est ça l'idée. Le regard sur le monde, il était le même. C'est-à-dire qu'on parlait à un ami, voilà ce que ça veut dire. On parlait à un fruit, voilà ce que ça veut dire. Qu'on parlait à un dirigeant, voilà ce que ça veut dire. Une montagne, voilà. La nature, voilà ce que ça veut dire. Même si tu vas la traduire par naturere ou par je sais pas quel dialecte, mais ça signifiait, les gens, ils avaient un regard sur le monde et les choses qui était dérivé de la langue hébraïque. Et la langue hébraïque étant d'origine divine, ils avaient un regard, on va dire, divin sur le monde. Ok ? Nimsa, ça se trouve, dernière ligne, avant les lignes grasses, Shamina Inushi, que l'espèce humaine, Aya Adain Bematsav Shel Shlemut, était encore dans un état de perfection, dans le sens perfection, de perfectude, d'accord ? De complétude, de Atama Melea, et dans l'espèce humaine était dans une forme d'égalité, de gashmiut ou de ruchniut. Sur le plan matériel, c'est la langue, ou de ruchniut, et sur le plan spirituel, c'est les concepts véhiculés par la langue. Ok? Donc, voilà l'état avant la tour de Babel. Voyez, des colorettes, safaha, tout varima khadim. Vous êtes bon? Voilà. En réalité, ça, c'est l'introduction. Un très long développement qui est hyper intéressant. Alors, si, ceux qui ont le Rav Shimshon Avadirch en français, lisez-le. En hébreu, c'est illisible. Quasiment, enfin, en allemand, je sais pas, je connais pas l'allemand. Mais en hébreu, pourtant, même si tu te fatigues, c'est, parce que c'est très abstrait. Mais en français, et il faut s'y reprendre beaucoup, d'accord? C'est presque de la philo. Je sais pas s'ils ont continué. Et donc, je vous montre l'orientation, d'accord, de ce qu'il va dire par rapport à qu'est-ce qui s'est passé avec la tour de Babel. Le début de la tour de Babel, quand les hommes ont voulu construire une tour pour s'opposer à Hachem, Hachem il a dit Avan Nerda, venons, on va descendre, Venav Lasham Sefatam, et on va mélanger leur langue, Asher Loishmeu Ish Sefatreu, qu'un homme n'entendra plus la langue de son ami.
Ne comprendra plus la langue de son ami.
Ok ? Et donc vous avez déjà le mot Navla. Ensuite, c'est marqué Alken Karashema Babel. Voilà pourquoi on a appelé l'endroit où ils étaient Babel. Kisham Balal Hashem Sefat Kolaret. Parce que Hashem a mélangé la langue de toute la terre. On Misham Efitsam Hashem. Et de là-bas, Hashem les a dispersés Alpene Kolaret à la face des mondes. Ici, ça nous règle un problème. C'est que, toujours on dit la tour de Babel, c'est le mélange des langues. Et comme il dit Rashi, passe-moi le marteau, il lui donnait la tenaille. D'accord ? Comme ça dit Rashi. Et il s'est énervé, il lui cassait la tête. Passe-moi ça, ça veut dire. Il entendait. Mais si vous remarquez, il y a deux termes. Le premier terme, c'est Navla. Alors il dit Rabbi Shimshon Ravelirch que Navla, bien qu'on pense toujours, on le traduit par mélanger, mais en réalité, ça vient du mot naval, qui veut dire faner, flétrir. La langue, c'est faner. Avan Erda, on va descendre de niveau, venav lasham sefatam, parce que sinon on n'aurait pas dit, on dit balal pour mélanger. Venav lasham sefatam, on va flétrir, faner leur langue, c'est-à-dire la langue n'aura plus la même intensité, et donc lo ishmeu ish sefatreu, un homme ne comprendra plus la même langue, mais de son ami. Ça veut dire, disons, on aura les mêmes mots, d'accord, mais on n'entendra plus. Donc qu'est-ce qui va changer? C'est les concepts. Que à partir du moment où il y aura cet épisode de la tour de Babel, oui, les gens vont changer le regard ou la compréhension qu'ils ont des mots, et ils vont leur donner eux-mêmes un sens aux mots. Voilà pour moi ce que c'est un marteau. Marteau égale violence. D'accord ? L'autre dit marteau égale construction. Donc quand il dit marteau, il va lui passer la tenaille. Voilà, c'est ça que ça exprime. Moi j'entends ça, et toi tu voulais autre chose. Alken, et c'est pour ça que c'est marqué Kisham balal Hashem sefat kolaret. Hashem balal sefat kolaret. Il a mélangé. Et dit Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, mélanger, oui, c'est avoir deux éléments et les mélanger, premièrement. Or là, il n'y avait pas deux éléments, il n'y avait qu'une seule langue. Comment tu veux mélanger Safa, la langue? C'est ce qu'on a dit. La terre était Safa Achat. Donc tu ne peux pas mélanger Safa Achat.
Oui, la langue et le
dialecte. Mais non, tu ne peux pas mélanger la langue et le dialecte. S'il y a une safa, il y a une safa. Donc il dit le Rav Hirsch, il y a une incompatibilité. Comment on peut comprendre qu'Hachem a balal sefat kol haaretz? Et deuxièmement, une chose encore pire, c'est que balal, le mot balal en hébreu, il y a deux mots pour dire mélanger. Il y a les arev, qui veut dire mélanger, et les balel, qui veut dire un mélange homogène. C'est-à-dire que balal en hébreu, c'est quand ça forme un mélange inséparable. Les arev, c'est je prends des petits pois et des carottes et je mélange. Mais ça ne fait pas un mélange, qu'on appelle ça en hébreu. Non, pas une purée, ouais. Non, c'est pas un mélange homogène. Balal, en hébreu, c'est quelque chose dont on ne distingue plus. Alors, il dit, alors comment c'est possible? Avoir qu'une langue et arriver à mélanger la langue dans un mélange homogène. Il dit, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est qu'il y a eu en fait un mélange des concepts. On a dit tout à l'heure, il y avait la langue qui donne un cadre, comme les lèvres. C'est un cadre défini. Il y avait des lechonotes, des dialectes qui sont de l'expression des différentes langues. Mais il y avait dvarim achadim. Au départ, il y avait des paroles uniques. Et on avait traduit paroles et dans l'expression d'un concept, des concepts uniques qui étaient désignés par des mots et des phrases uniques, transcrits dans des dialectes différents. Ça ne dérange pas. Mais à partir du moment où tu mélanges les dvarim, d'accord, eh bien tu fais une blila de la langue. C'est-à-dire la langue reste la même, d'accord. Alors bien sûr, dialectisée, mais les gens ne se comprennent plus parce que les choses ne sont plus désignées par les mêmes termes. Et c'est ça qui a fait la grande rupture avec la tour de Babel, c'est que les gens ne parlent plus la même langue. C'est-à-dire, c'est ce qu'on dit en français, on ne parle pas la même langue. On n'a pas le même discours. Tu comprends? Quand nous on parle de solidarité, vous pensez à quelque chose, nous on pense à autre chose. C'est comme dans les partis politiques, d'accord? Tous les partis qui sont autour de nous. On n'a pas la même langue, on n'a pas la même vision des choses. Les mots ne veulent plus dire la même chose. Sécurité ne veut pas dire la même chose. Protection, terroriste, enfin tous ces mots-là. Vous voyez, c'est relativement moderne. Mais en réalité, c'est ce qu'on s'aperçoit, que dans le monde qu'on vit, les mots n'ont plus le même sens, alors qu'on emploie les mêmes mots. Même dans la même langue française, entre deux Français et entre deux Anglais. Alors lui, il ne va pas jusque-là, Rabbi Jean Valérich, mais il dit que on voit que dans les pays, l'expression des mots, elle traduit en réalité la pensée profonde du peuple. Et que la manière, par exemple, en allemand, alors je ne veux pas vous saouler parce que ça devient après très complexe, mais par exemple, il dit en... Voilà. Hop. Voilà. Il dit par exemple, quand on prend l'expression en anglais, en allemand, pour dire un juge, il dit aussi Richter, qui veut dire Richtung, la direction. C'est une idée de séparation, l'idée de justice. Alors qu'en hébreu, c'est le mot de Shofet. Et donc il dit là, l'expression même du mot, elle traduit une vision différente de ce qu'est la justice. D'accord? Et c'est pareil pour le mot religion, c'est pareil pour le mot être, etc. Par exemple, il dit le souverain. En allemand, donc pour lui, il parle beaucoup de l'allemand. Il dit Herr, comme Herr Maréchal, etc. Herr, en hébreu, en allemand, par exemple, c'est un souverain. C'est celui qui est au-dessus, un peu comme Har, la montagne. Alors qu'en hébreu, comment on dit un maître? Adon. Quel est le concept qui est véhiculé par le mot Adon? C'est Adanim, un été, un soutien. Ça veut dire que le Adon, ce n'est pas celui qui est au-dessus des autres, c'est celui qui soutient les autres. Donc en hébreu, vous voyez une bonne expression, effectivement, la langue allemande, elle a perverti l'idée de direction. Parce qu'elle a traduit, alors je ne sais pas comment ils sont passés du mot Adon au mot R, mais bon, après les dialectes, on se rend compte que les dialectes, tout doucement, ils s'effilochent, et on arrive de A et on arrive à Z. Mais en tout cas, ils donnent cette expression. Que pour dire un maître, on dit Herr, d'accord, qui veut dire la puissance, oh, celui qui est au-dessus.
Herr.
Exactement.
Herr Walid.
Exactement.
Voilà.
Mais même le souverain, il s'appelle Herr.
Bien sûr.
Pourquoi? Parce qu'il désigne quelqu'un qui est au-dessus. Alors qu'en hébreu, le souverain, le chef, il s'appelle Adon, c'est celui qui est au-dessous, qui soutient. Et donc, vous voyez, il fait une étude des différents mots pour montrer qu'en réalité, ce qu'on a perdu avec la tour de Babel, c'est le sens du mot, le sens du concept. Et donc, on est toujours avec Safa Achat. Simplement, Balal Sefatam. Hachem a mélangé la langue. Voilà. Et c'est quoi mélanger la langue alors qu'on n'en a qu'une? C'est mélanger les concepts véhiculés par la langue. Et les gens, c'est pour ça que les gens ne se comprennent plus. D'accord? Et effectivement, quand en hébreu, c'est traduit. En hébreu, la Gemara, par exemple, le mot Adon. Dans la Gemara, elle dit qu'un Adon, qui a un maître qui a un serviteur, il doit être attentif aux besoins du serviteur, encore plus que les siens. Elle dit la Gemara, que si un maître, il mange de la viande, son serviteur doit manger de la viande. Si un maître a des coussins, son serviteur doit avoir des coussins. Si un maître se repose, le serviteur se repose. Il y a une égalité. D'accord? Donc ça, c'est avec la loi orale. Donc la loi orale, si vous voulez, elle a traduit ce concept originel du mot Adon. Effectivement, en hébreu courant, enfin dans des gens d'études, quand on parle de Adon, ça fait tout de suite référence à la Gemara, où la Gemara dit qu'un serviteur, c'est lui le Adon. D'accord? Avoir, bon, c'est un peu véhiculé ce que disent les Français, c'est que les employés, c'est les patrons. D'accord? Mais c'est pas dans la même optique. Mais en tout cas, cette idée de Adon, qui est le soutien, c'est ça que dit la Gemara. Que le maître, il doit soutenir son serviteur. Et voilà pourquoi il est un Adon. Il n'est pas un Adon parce qu'il est au-dessus de lui. Il est un Adon parce qu'il a pris dans sa maison quelqu'un qu'il fallait aider. Et voilà pourquoi il est un Adan, Adanim, comme dans le Mishkan. Il y avait les Adanim, les socles. Et c'est en ça qu'il doit être un Adon. Alors que dans d'autres civilisations, le Adon, c'est le chef tout-puissant qui écrase celui qui est en dessous de lui. Voilà. Donc il y a un long, long développement. Voilà. Donc je vous lis, même en français, l'élément qui a pu s'introduire dans la langue universelle et la couper subitement de sa source ne peut donc être que l'éveil de la conscience antagoniste de l'individu, une conscience qui valorise la subjectivité aux dépens de l'objectivité de la vision des choses qui avait été donnée avec la langue. Vous voyez ? Et ça, c'est la traduction en français. Donc vous voyez, c'est déjà compliqué. D'accord ? Donc en réalité, bon, parce que j'en ai pas parlé, mais en réalité, c'est que les concepts sont devenus des notions subjectives. Alors qu'en réalité, au départ, un concept, c'était quelque chose d'objectif. C'est Hachem qui avait dit, ça s'appelle le Ilan, ça s'appelle ça. Et Adam Harishon, avec son inspiration divine, il dit, ça s'appelle une para, ça s'appelle un tzipor. Et le concept véhiculé par le mot, il était objectif. Alors que maintenant, les concepts sont devenus subjectifs. D'accord? Et c'est ça, la grande rupture entre avant et après la tour de Babel. Et c'est ça qui a séparé les hommes. Ce qui sépare les hommes, c'est la subjectivité des concepts. Bon, voilà, on va s'arrêter là, c'était un peu... Voilà, je vous conseille de lire ça, prenez deux aspirines, une heure et demie, et pour lire ces quelques pages, mais c'est très très beau, c'est magnifique. La même chose, quand il fait aussi une analyse entre Ish et Isha, entre avoir et être, etc., comment dans chaque langue, un homme et une femme, oui. On voit d'ailleurs, regardez comment le lien entre la langue et le dialecte. En hébreu, ish et isha. D'accord? C'est presque pareil. Sauf qu'il y a un yud, il y a un eux, chacun connaît le yud, le la langue de Dieu, tout ça c'est clair. Mais en français, vous avez homme et femme. Quelque part ça se ressemble. Vous avez à peu près la même phonétique, sauf qu'il y a un h et un f. D'accord? Alors personne n'est attentif à cette idée-là. Mais probablement que dans le mot homme, ça véhicule un concept et un autre concept qui est véhiculé dans le mot femme. En hébreu, c'est le même concept décliné, ish, isha, d'accord? Il y a la même source. En français, on dirait qu'il y a une homophonie, homme et femme, mais on ne s'est jamais interrogé sur ce sens-là. Quel est le sens du concept homme? La racine du mot homme, la racine du mot femme, et pourquoi il y a juste cette petite variante où on passe de H à F, ok? Pour homme à femme. Bon voilà, c'est la réflexion pour ce Shabbat. Gitchabes! Adam.